vous le savez sans doute, là, il y a des militants pour qui la simple utilisation du mot « nègre », qu'importe le contexte, même si ce n'est que pour citer un livre, ben, c'est un tabou absolu pour ces gens-là, c'est un sacrilège, même si le mot n'est pas utilisé dans le contexte comme une insulte. Et là, il y a, on sait, c'est une, je dirais que c'est une controverse ponctuelle dans le monde anglo-saxon, surtout. Là. Et la semaine passée, on a appris qu'il y a un prof de l'Université d'Ottawa qui a été suspendu, une prof, pardon, pour avoir prononcé le mot « oni ». Dans un contexte bien précis, elle expliquait à ses étudiants que les Noirs américains s'étaient appropriés ce mot-là, cette insulte-là, et qu'ils avaient fait cette insulte-là un point de ralliement. Le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, s'est prononcé aujourd'hui sur la suspension de la professeure Verouchka, lieutenant Duval. On en parle immédiatement avec Maxime Prévost, il est directeur du département de français à l'Université d'Ottawa et aussi co-signataire d'une lettre pour dénoncer le traitement reçu par la professeure. Professeur Prévost, bonjour.
Oui, bonjour, M. Legacy.
D'abord, quel est le statut actuel de cette professeure Verouchka, lieutenant Duval?
Écoutez, là, je suis pas le porte-parole de son syndicat, mais donc elle n'est plus suspendue. Elle n'a jamais été sans solde non plus. Donc, elle continue son cours, sauf que, si vous voulez, son cours a été scindé en deux sections. Donc, les gens qui se sont sentis offensés dans son cours peuvent suivre le même cours maintenant avec un autre professeur, tandis que ceux qui voulaient continuer avec elle peuvent continuer avec elle.
Est-ce que c'est une pratique courante, ça, à l'Université d'Ottawa? C'est-à-dire que lorsque des étudiants sont offensés par un contenu, peuvent avoir un autre prof?
Non, c'est pas du tout une pratique courante. C'est un cas très particulier et je crains un peu que ça donne un précédent déplorable.
OK. Vous êtes co-signataire avec combien d'autres profs là, d'une lettre d'appui?
Bon, écoutez, on a été 34 à signer, mais cette lettre-là, il faut comprendre qu'elle a été écrite dans l'urgence. Mm-hmm. Parce qu'on voulait réagir, on voulait qu'il y ait une voix intellectuelle de l'intérieur de l'université qui réagisse, pas juste une voix administrative, pas juste une voix politique, et on voulait absolument le faire avant que les collègues québécois prennent la parole, parce que il y a des pétitions qui circulent au Québec, les universitaires québécois vont se mettre à parler. Donc on voulait qu'une voix de résistance à l'intérieur de l'Université d'Ottawa sorte avant les autres. Okay? Et donc, on a été 34 signataires, mais on n'a pas essayé de ratisser le plus large possible. On a écrit la lettre, on l'a envoyée à quelques personnes autour de nous, puis là, rapidement, on s'est retrouvé avec 34 signatures. Mais si on avait essayé de faire un truc plus systématique, je suis certain qu'on aurait pu avoir peut-être 200 signatures, peut-être plus. Maintenant, au moment où on se parle, là, mais comme à l'époque, il y a quelques jours, oui.
Est-ce qu'il y a des profs qui vous ont contacté pour ajouter leur nom à votre lettre?
Oui, il y en a eu quelques-uns dans les premiers jours, puis je me sentais très mal, comme c'était une situation diplomatiquement compliquée. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit « Pourquoi tu m'as pas écrit? » Simplement dit « On n'a pas écrit à tout le monde, parce que bon, il y avait différentes personnes qui étaient à l'origine. Là. On n'a pas écrit à tout le monde parce que, premièrement, on voulait mettre personne mal à l'aise. Ça a été une opération qui a été faite rapidement. Puis, à partir du moment où on était une masse critique, à partir d'une trentaine, là, on trouvait que c'était bon, ça pouvait partir. Et on voulait que ça parte pour être dans les journaux du samedi.
Les 34 professeurs signataires de cette lettre-là ont choisi de monter au créneau pour défendre la professeure Verouchka, lieutenant Duval. Pourquoi vous pensez qu'on lui fait un mauvais procès?
Bien, c'est-à-dire que si... on n'a pas tous les éléments du dossier en main, OK? Il y a beaucoup d'éléments confidentiels là-dedans, donc on ne voulait pas trop se prononcer sur le cas précis. Mais si les choses étaient telles qu'elles avaient été rapportées, et puis, selon les personnes qui accusaient la professeure en question, ben, ils étaient d'accord. En gros, tout le monde était d'accord sur ce qui lui était reproché. Mais ça, selon nous, ça ne constituait pas une insulte raciste, ça ne constituait pas une agression. Ça ne constituait pas une insulte, ça constituait plutôt une mise en contexte historique. Et là, on trouvait qu'on était sur un terrain très glissant s'il y avait des réalités qu'on ne pouvait plus aborder, qu'on ne pouvait plus discuter.
Si je comprends bien, là, c'est la simple prononciation de ce mot-là dans un contexte bien précis qui n'était pas celui d'une insulte. Au contraire, la professeure est en train d'expliquer aux étudiants que les Noirs américains ont utilisé l'insulte « nègre » pour se la réapproprier et en faire un point de ralliement. Si je comprends bien, selon les étudiants qui l'ont brûlé en effigie, là, cette prof-là, on ne devrait même pas prononcer ce mot-là.
Oui, ben c'est exactement ça. Un blanc n'a pas le droit de prononcer ce mot sous aucun prétexte.
Donc, je m'excuse de vous interrompre, Maxime Prévost, mais comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, qui est un roman de Dany Laferrière. Vous, comme prof, là, selon cette doxa-là, vous ne devriez pas pouvoir le prononcer, le titre du livre.
Ça fait déjà quelque temps que les professeurs qui aiment Dany Laferrière enseignent plutôt d'autres romans que celui-là.
Okay? Sérieux?
Oui, je pense que oui. Il y a beaucoup d'autocensure qui était déjà en place. Dans le cas de Dany Laferrière, ça tombe bien, on a le choix. Il y a plusieurs excellents romans, c'est pas le seul. Dans le cas de quelqu'un comme Pierre
Laferrière... C'est quand même, professeur Prévost, le roman qui l'a lancé, qui l'a révélé au monde.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ouais, on a quand même le choix avec Laferrière, je dirais, tandis qu'avec Pierre Vallière, comme son livre le plus intéressant, ben, c'est « Nègre blanc d'Amérique ». C'est un livre fondamental qui n'a pas du tout été écrit dans une volonté d'insulte et qu'on peut vouloir contextualiser dans un cours sur l'essai québécois, par exemple. Mais je pense que c'est impossible. Je pense que désormais, mettre ce livre-là au programme, à l'étude, constituerait en soi un scandale.
Parlez-moi des étudiants là qui ont lancé une pétition parce qu'ils voudraient que les professeurs, les 34 professeurs qui ont signé la lettre d'appui, soient rééduqués. Et ça, c'est un mot qui est assez lourd de sens.
C'est assez lourd, oui. Bon, le syndicat étudiant, parce qu'un syndicat étudiant, lui, demande qu'il y ait des sanctions contre nous, tandis que cette pétition-là demande qu'on soit rééduqué, oui, c'est-à-dire qu'on ait des formations pour qu'on soit moins ignorant par rapport au racisme et aux situations d'agression qu'on perpétue. Cette pétition-là, au moment où on se parle, a été signée par 5000 personnes. Je pense pas que ce soit toutes des vraies signatures, mais il y aurait, semble-t-il, 5000 étudiants là qui demandent qu'on soit rééduqué.
OK.
Les 34 signataires de la lettre.
Là. OK, je sais que vous devez partir, là, mais dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé culturel? Vous le savez, l'Université d'Ottawa, là, c'est une université bilingue où les communautés anglophones et francophones coexistent. Et il semble que ces explosions dans l'actualité, ces controverses autour de certains mots tabous, de certaines choses qu'on ne devrait pas dire, ben, c'est souvent chez les Anglos que ça commence.
Oui, je pense que oui, mais j'ai l'impression que le discours social francophone s'en va dans cette direction aussi. Donc, il y a quand même quelques anglophones parmi les signataires, mais c'est surtout des francophones, effectivement. Il y a une espèce de séparation linguistique là, dans les gens qui se préoccupent de la situation. Mais pour les francophones, je pense qu'on y arrive aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'enseigne Alexandre Dumas, là, je parle de sa grand-mère qui était esclave et je commence vraiment à craindre qu'on me dise que j'ai pas le droit de parler de ça parce que je suis pas noir et puis j'ai pas vécu la situation de l'esclavage de l'intérieur et que c'est un sujet qui n'est pas abordable. J'ai peur qu'on s'en aille dans cette direction et je pense qu'il faut faire attention aux précédents qu'on donne.
Merci beaucoup, Maxime Prévost.
De rien, ça m'a fait plaisir.